Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Toujours sur les ondes de CFAQ 88.3, comme on couvre l'actualité sur les campus, on parle aussi du campus de la santé à l'occasion. Et la semaine prochaine aura lieu un comité, panel qui réunira des experts pour parler comment mieux représenter les réalités de LGBTQ+, notamment à ce qui a trait à la médecine. On parle aujourd'hui avec Samuel Beaudoin, directeur général du Gris Estrie, et on reçoit également Raphaël Vincent, qui est étudiant en médecine, qui participera au panel. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Donc, d'entrée de jeu, pourquoi c'est important d'organiser un tel panel sur la pratique inclusive de la médecine? C'est le mot-clé qui me manquait dans ma présentation, mais pourquoi c'est important?
J'ai l'impression que c'est super important. Bon, c'est sûr, là, on pense au contexte sociopolitique actuel. C'est important de faire de la sensibilisation en tout temps. L'aspect aussi de la collaboration est important ici. Tu sais que le Gris Estrie collabore avec le département de médecine, un beau groupe d'étudiants et étudiantes super motivés. C'est pertinent. Il faut que ça se fasse parce que je pense que c'est important d'apprendre aussi un peu dans l'expérientiel, puis vraiment en organisant des activités, puis en faisant de la sensibilisation nous-mêmes. Je pense que ça peut améliorer notre pratique du futur. Aussi, dans les pratiques en médecine, bien, malheureusement, en ce moment, il y a encore beaucoup de problématiques d'accès aux soins, tout particulièrement pour les personnes trans, mais on peut aussi parler d'accès aux soins pour les personnes ayant une autre orientation sexuelle qu'hétérosexuelle.
Raphaël, pour toi, qu'est-ce qui t'a invité à participer à ce panel-là?
Bien, c'est sûr, d'un point de vue un petit peu plus proche, moi, en tant qu'étudiant en médecine, on n'a pas tous le même bagage quand on arrive en médecine. Il y en a qui ont plus d'expérience avec les réalités de LGBTQ+. Il y en a, au contraire, qui en ont moins. Je pense que le panel vient un petit peu jouer avec ça. Il essaie de nous mettre tout un peu sur un même pied d'égalité ou, en tout cas, de nous donner des outils supplémentaires pour, une fois qu'on va être en pratique, bien, être capable d'un petit peu plus mieux gérer ces réalités-là là, au quotidien.
Jérémy?
Oui, votre panel, justement, réunit des experts et des expertes au profil varié, recherche, médecine, communautaire et témoignages de personnel. Comment vous avez choisi, justement, ces intervenants?
C'est sûr que pour nous, c'était important de choisir des expertises variées, des personnes qui en connaissaient vraiment, maîtrisaient leur sujet, avaient des pistes de solutions, pouvaient vraiment être enrichissantes à écouter. En résumé, on a Jen de Transestrie qui va venir parler vraiment de l'aspect communautaire. Jen a une expérience de pratique incroyable, puis aussi de recherche. Il y a Dr. Michel Maillet qui est endocrinologue à Sherbrooke en Estrie, qui a aussi de très grandes expertises, qui selon les patients-patientes qui, là, a des pratiques très, très inclusives qui même vont influencer les résidents-résidentes sous son service. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Et on a aussi le professeur Julie-Christine Coton, très, très intéressante également, impliquée sur plusieurs types de recherches aussi en lien avec les communautés d'ESLGBTQ+, et d'autres communautés marginalisées aussi. C'est important pour nous que tout un peu soit couvert. Et on finit avec un témoignage aussi qui sera certainement frappant là, de Liam, qui va vraiment parler de son vécu. Donc, pour nous, de couvrir tout, c'est important pour que les personnes aient une belle vision, finalement, de c'est quoi l'expérience d'une personne de LGBTQ+ dans le système de santé.
On sait que, bon, tout ce qui est bien conscient en médecine peut peut-être, nuit à la qualité peut-être offerte à certaines personnes qui, justement, que ça va du simple, qui va du mégenrage, etc. Donc, c'est juste des petits trucs qui peuvent paraître anodins, mais qui peuvent peut-être un peu gêner ou nuire à la personne lorsqu'elle se présente à un médecin. Quels seraient peut-être, selon vous, les principaux préjugés ou idées reçues qui persistent dans le milieu médical, Raphaël?
Premièrement, le panel, c'est oui pour les personnes en médecine, mais aussi tout autre spécialiste en santé. Mais oui, effectivement, il y a des fois des biais, soit implicites là, qu'on pourrait avoir, qui pourraient nuire justement à la qualité des soins. Ça peut aller, comme vous disiez, là, juste du simple mégenrage. Des fois, ça peut être des idées perçues par rapport à des problématiques de santé qui sont anodines, des problématiques de santé de base, disons, mais que pour des personnes qui sont issues de la communauté de LGBTQ+, ça peut être des réalités au niveau de la santé sexuelle, au niveau même des autres choses que de la santé sexuelle. Quand on les prend en charge, il y a certaines personnes, c'est des médecins et autres, qui vont peut-être avoir des idées préconçues sur les facteurs de risque, les traitements apportés, tout ce qui est aussi l'enjeu de soins par rapport à l'hormonothérapie. Il y a des médecins qui sont pas à l'aise avec ça, qui peuvent des fois être peut-être plus réticents à aller traiter ces personnes-là juste par méconnaissance des réalités. Là. Ouais, c'est ça.
Puis, Raphaël, en tant qu'étudiant en médecine, comment tu perçois un petit peu la place des enjeux d'ESL LGBTQ+, dans la formation actuelle?
On est chanceux à Sherbrooke, on a quand même... on a déjà des sujets qui sont abordés avec le programme là, actuel. On a aussi des rencontres avec des sexologues, avec d'autres spécialistes là, à plus large cause pour ce qui est des santé sexuelle de manière générale. C'est sûr que est-ce qu'il y en a assez? Ça dépend un peu de la perception de chacun aussi puis du type de pratique qu'on veut faire plus tard. Je pense que le panel, c'est juste un outil supplémentaire qu'on se donne en tant qu'étudiant en médecine là, qui va pouvoir nous aider par la suite dans notre pratique future.
Comme on le disait, ben le Grestrie, Transestrie vont participer aussi dans ce genre, dans cet événement-là. Quel rôle jouent les organismes communautaires dans l'amélioration des soins aux personnes de SLGBTQ+?
ben oui, tout dépend en fait de l'organisme en soi. Transestrie joue un rôle incroyable au niveau vraiment des revendications politiques, puis de faire des recherches aussi, d'effectuer différents types de recherches pour soit améliorer les pratiques. Ben, en fait, l'objectif est toujours d'améliorer les pratiques, mais à la base, des fois, ça peut être aussi étudier ce qui se fait en ce moment. Donc, il faut couvrir un maximum aussi de population. Donc c'est ça pour Transestrie. Au niveau de Grestrie aussi, ce qu'on fait en général, c'est beaucoup du référencement, donc vraiment s'assurer que les personnes aient accès aux bonnes ressources. On référence bien entendu à nos collègues aussi de Transestrie, mais à d'autres organismes aussi au national, parce que malheureusement, les besoins des personnes de SLGBTQ+ ne sont pas totalement couverts là, en Estrie, comme dans plusieurs régions dites rurales ou éloignées finalement de Montréal. Donc, il y a ce rôle-là qu'on joue, mais puis un rôle politique là, en tout temps, puis actuellement, là, dans le contexte sociopolitique actuel, c'est sûr que notre rôle devient de plus en plus important parce qu'on doit vraiment s'assurer de toujours être là pour soit revendiquer et ou créer un espace là, sécuritaire pour nos communautés.
Mais tu parles justement de cette différence-là entre Sherbrooke et Montréal, peut-être. Est-ce qu'il y a vraiment des bonnes différences? Est-ce qu'il y a des gens qui doivent se rendre à Montréal pour certaines raisons particulières?
Oui, tout à fait. Ben, en fait, par exemple, les chirurgies d'affirmation de genre, si les personnes choisissent d'en avoir, sont uniquement à Montréal. Puis en fait, ça, c'est quand même relativement récent dans l'histoire qu'elles sont accessibles à Montréal aussi, entre guillemets, là, aussi facilement. Là, c'est pas si facile d'y avoir accès, mais qu'il y a une amélioration, c'est plutôt récent. Et c'est juste à Montréal que ça se passe. Sinon, il y a beaucoup d'autres services aussi. Tu sais, quand on parle de services de sexo, par exemple, pour avoir des lettres de recommandation pour de l'hormonothérapie ou des chirurgies d'affirmation de genre, ben il y en a très, très peu dans la région, puis il y en a très, très peu qui ont l'expertise aussi. Souvent, c'est moins un problème de manque de ressources en soi aussi, mais plus un manque d'informations, justement. Okay. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles organiser le panel d'intéressants. On a trouvé des personnes qui, dans leur pratique, exercent vraiment comme une espèce d'îlot, pas d'îlot, mais de silo d'inclusivité. On aimerait que leur pratique puisse influencer d'autres personnes qui pratiquent.
Est-ce que, en fait, quels seraient les ajustements que le milieu médical pourrait déjà adopter dès maintenant pour être plus inclusif ou être plus respectueux, qui se ferait relativement facilement pour peut-être aider les personnes à ne pas avoir peur d'aller consulter peut-être? Raphaël, je ne sais pas si tu as une idée.
Je pense que oui, ça part un peu par le fait de déconstruire les biais implicites qu'on peut avoir. Okay. Des fois, ce n'est pas évident parce qu'on n'est pas au courant justement de ces biais-là. Le panel, c'est peut-être une façon qu'on peut avoir pour s'ouvrir les yeux un petit peu sur ces réalités-là. Mais ça peut être justement de garder l'esprit ouvert. Hein. Tu sais, un patient, avant tout, c'est un patient plus qu'une identité de genre ou une identité de sexe. Là. C'est vraiment juste d'amener des réalités qui sont plus inclusives dans notre pratique, dans notre façon d'aborder nos patients. De garder en tête aussi, tu sais, des fois, ça peut être aussi banal que de ne pas prendre pour acquis le nom du patient étant associé à un pronom directement. Ça va être juste d'appeler son patient par son nom directement. Mm-hmm. C'est une pratique qu'on fait déjà dans la vie de tous les jours, mais dans le milieu médical, des fois, on dirait qu'il y a peut-être un décalage avec ce qu'on est capable de faire dans la vie de tous les jours quand on aborde quelqu'un. Fait que c'est juste des fois des petites choses comme ça, plus simples. Puis moi, je dirais que c'est ça, peut-être, ce qu'on essaie dans les choses les plus facilement changeables, d'amener, je dirais.
Ouais. Puis au-delà du panel, là, qu'est-ce que vous souhaitez que les participants retiennent un petit peu puis appliquent, mettons, dans leur réflexion sur l'inclusion, pas juste en médecine, je dirais, en général?
J'ai envie de dire, j'aimerais que les personnes, surtout les professionnels, mais tout le monde, honnêtement, retiennent que c'est pas si compliqué, finalement, inclure les différentes réalités. Souvent, mm-hmm. on a cette espèce de préjugé-là. Mais en fait, c'est plutôt simple. Je suis sûr que les personnes vont pouvoir facilement l'expliquer sur le panel. C'est aussi nécessaire. C'est nécessaire mm-hmm. parce que ça nous aide à mieux considérer aussi, tu sais, on parle de ce qui devrait être fait et tout ça, mais tu sais, actuellement, par exemple, il y a des personnes trans qui n'ont pas leur réalité considérée, qui font en sorte que leurs problématiques de santé aussi sont pas tout à fait considérées correctement aussi. Ça a une influence, notre vécu trans sur notre santé physique et vice-versa. Donc, ce serait vraiment pertinent de le prendre en compte. Ça améliorerait même les pratiques, vraiment littéralement les pratiques médicales. Vraiment, je pense que les gens vont retenir que c'est pas si compliqué, qu'ils peuvent l'appliquer dans leur pratique ou dans leur vie de tous les jours.
Ben oui, ben c'est super beau, puis c'est ça, je pense que je trouve ça intéressant de rappeler un rapport qui est sorti plus tôt cette session en hiver de Gris Montréal, justement, qui parlait de la montée, justement, de l'intolérance dans les écoles chez les jeunes personnes. Puis ben, pour combattre l'intolérance, ben c'est la compréhension, justement, c'est comprendre, justement, les réalités des autres personnes, puis c'est de cette façon qu'on arrête l'intolérance, on va dire. Fait que, super bel événement, là.
Est-ce que, pour rebondir sur ce que Jérémy vient de ramener, est-ce que vous avez le même constat? Parce que je sais que, Grégory, vous faites quand même des rencontres dans les écoles et tout ça. Est-ce que vous avez ou plus de questions ou que le ton est différent?
On a le même constat là, avec certaines... C'est sûr que chaque région est différente selon plusieurs éléments. Mais tu sais, l'étude justement en question, le Gris-Estri a participé activement. On a recueilli des données. Je pense que même proportionnellement, on est quand même un bon nombre là, de questionnaires qui ont été choisis puis qui ont été pris là, pour l'étude. Donc, on constate un peu la même chose. Ce qu'on constate beaucoup aussi, c'est une polarisation des opinions. Mmh. Donc, vraiment, il y a des grands alliés. Il y a même des jeunes qui viennent nous voir à la fin puis sont comme, c'est vraiment cool ce que tu dis, ça nous aide à comprendre. Puis, il y en a au contraire qui écrivent des menaces de mort dans des questionnaires. On a dans les deux extrêmes. Là. Donc, c'est ça. C'est vraiment en démystifiant, en expliquant vraiment ce que c'est, les gens vont pouvoir comprendre. Mmh. En fait, tout le monde est un peu pareil. Tout le monde est différent. Mmh. Tout le monde est pareillement différent.
Comment assurer des soins de santé inclusifs pour tous, pour toutes et répondre aux besoins des communautés de SLGBTQ+ en médecine? C'est la question qui sera lancée dans ce panel du côté du campus de la santé de l'université la semaine prochaine, le 10 avril, dès 13h. Samuel Beaudoin, directeur général de Gris-Estri, et Raphaël Vincent, étudiant en médecine ici à l'université. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Donc, on surveille ça du côté du campus de la santé. Courte pause musicale ici sur les ondes de CFAQ 88.3.